autogestion. Le joli mot autogestion, petit à petit, réapparaît dans la sphère publique, audiovisuelle ou encore associative. Après plusieurs décennies d'invisibilité, on se remet à parler d'autogestion, et souvent avec fierté. Ça n'est sûrement pas un hasard. Ces dernières années ont été marquées par la négation pure et simple de la parole du peuple, des travailleuses et des travailleurs. En 2005, il y a 15 ans déjà, le référendum sur la Constitution européenne envoyait un non cinglant à toute la classe politique. Ce non a été rapidement bafoué, histoire que le peuple comprenne qu'il a le droit de s'exprimer et de voter, mais à condition que ce soit un vote conforme, sans caractère émancipateur, ni bien sûr révolutionnaire. L'ordre se doit d'être maintenu. Il est certain que ce refus de respecter le choix des électrices et électeurs en 2005 en a dégoûté plus un qui se sont réfugiés dans le découragement. Mais d'autres, au contraire, ont compris qu'ils et elles ne pouvaient alors compter que sur eux et elles-mêmes, et qu'ils et elles se devaient de prendre en main leur vie sans déléguer quoi que ce soit au pouvoir, à aucun pouvoir. C'est de ce type de prise de conscience que se nourrit le regain de l'autogestion aujourd'hui. Et puis, dans le monde du travail, il y a les licenciements massifs et les fermetures d'entreprises. Parfois, des luttes ont été menées. Souvent, le funeste dialogue, soi-disant social, n'a fait qu'accompagner ces fermetures, tout en détruisant et des vies de travailleuses et travailleurs et des territoires. Mais par endroits, des perspectives se sont dessinées au travers de la reprise de l'outil de travail par les premières et premiers concernés, les productrices et producteurs. On peut bien sûr se référer à SCOPTI, la société coopérative ouvrière provençale Thés et Infusions. Cette coopérative est issue de la lutte sociale engagée par les anciens et anciennes salariés de Fralib Unilever, propriété de la marque Thé Éléphant. Après 1336 jours de lutte, ils disposent de leur outil de travail et créent leur propre entreprise. La perspective autogestionnaire s'enracine dans ce type de belle aventure. Une belle aventure internationale. On connaît les expériences en Amérique latine, un terreau fertile pour les expériences révolutionnaires, entreprises récupérées en Argentine, mouvements indigènes en Équateur et en Bolivie, et bien sûr l'expérience zapatiste au Chiapas en résistance contre les institutions internationales. Plus près de nous, la Grèce, étranglée par la crise, enfante des usines autogérées, sans patron et sans hiérarchie. Et puis, le Rojava kurde. Alors oui, on se remet à fredonner ce joli nom d'autogestion, et on en vient à se remémorer quelques belles pages de son histoire, depuis la Commune de Paris en 1871, la Révolution espagnole en 1936, l'usine Lippe en 1973, etc., etc. Et ainsi, de plus en plus, l'autogestion devient une évidence, ou tout au moins, on s'autorise à parler autogestion dans de nombreux domaines. Quelle santé en mode autogéré ? Quel habitat autogéré ? Comment autogérer les services publics ? Comment conjuguer autogestion et féminisme, autogestion et migration, syndicalisme et autogestion, éducation et autogestion, etc., etc. Alors attention, loin de nous l'idée qu'il s'agirait d'un mouvement majoritaire. Mais il y a une tendance de fond. Nous voulons nous réapproprier tous les compartiments de notre vie. Un tout dernier exemple nous en est donné avec le mouvement des Gilets jaunes, dont une des caractéristiques, c'est une exigence d'écoute et très souvent de démocratie directe. En région, des coopératives, des associations, des collectifs militants ont décidé de formaliser une réflexion collective concernant l'autogestion, d'échanger autour de leurs pratiques. Un premier moment d'échange s'est tenu en avril à Mont-Saint-Barœul. La deuxième étape s'est déroulée à la Bourse du Travail de Lille. Une journée complète de réflexion, dense, riche. Micro-Rebelle y était et a pu recueillir quelques témoignages.
Bonjour, je m'appelle Farah Azbaï. Je participe à la journée sur l'autogestion et là, ce matin, on avait prévu de parler c'est quoi l'autogestion ? Donc c'est quoi l'autogestion pour nous ? Comment on définit l'autogestion avec les différents apports qu'on met dedans ? et les différentes questions que ça soulève pour arriver à un consensus. Et la question qu'on voulait avoir après, c'est pourquoi cette autogestion ? Et c'est marrant parce qu'en discutant sur le c'est quoi l'autogestion, moi je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on discute de pourquoi, théoriquement, pourquoi l'autogestion ? Et pourquoi ? C'est-à-dire pourquoi faire ? À quoi ça nous servirait cette autogestion ? Donc là, actuellement, j'en suis là dans ma réflexion, puisque en plus le groupe est arrivé à ce moment-là de la discussion à se dire voilà pour comment est-ce que nous on veut se servir de l'autogestion méthode pour élaborer un concept d'autogestion valeurs, quelles sont nos valeurs autogestionnaires pour une société plus juste, plus égalitaire, plus qui garantissent le bien-être de chaque individu et collectivement d'avancer vers un meilleur partage de cet espace commun qu'on pratique au quotidien.
Alors sur les aspects autogestion méthode, qu'est-ce que tu pourrais dire comme grande caractéristique ?
Pour moi, l'autogestion méthode, c'est avant tout une ouverture. C'est par exemple, si j'en reviens à l'individu, moi quand je viens dans un groupe autogestionnaire, c'est d'arriver avec une posture de doute. C'est-à-dire de doute dans le sens, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, et donc je veux le connaître et je veux qu'on en discute avant de savoir comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Enfin, parce que pour moi, quand on fait de l'autogestion, dans le terme de gestion, pour moi gérer ça veut dire gérer quelque chose, un espace, un concept, un projet, donc se donner des règles et donc dans le but de obtenir un résultat, et donc le résultat on va le travailler ensemble. Donc la méthode, pour moi, après il y a une myriade de petites choses qui composent cette méthode, le fait d'être en consensus, le fait de respecter l'autre, d'avoir des règles de fonctionnement discutées, d'avoir des règles de fonctionnement qui garantissent une souplesse dans l'interprétation aussi de ces règles, parce que le protocole, c'est important de l'avoir pour savoir dans quoi on évolue, et en même temps, c'est important qu'il puisse bouger. Quand un individu s'est senti blessé par une règle de fonctionnement, qu'on puisse en discuter pour la remettre en question. Donc, pour moi, la méthode, elle est composée de tout ça, et la base de tout, c'est la discussion.
Alors toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Est-ce que tu participes à des collectifs ou des assos de type autogestionnaire ? Le petit parcours qui t'amène à cette journée, qu'est-ce que c'est ?
À la base, c'est CLIS 21 pour l'annonce de la première journée qui avait eu lieu. Mais pour la pratique autogestionnaire, c'est le LAG, le lieu autogéré de Liévin, auquel je ne vais pas concrètement assez souvent à mon goût, mais où j'aimerais bien aller plus souvent. Par exemple, il s'y déroule les activités de penser collectivement. Moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne quelque part, parce que je trouve que ma pensée est limitée, même si elle est, si je la travaille avec des textes, avec des idées qui me viennent de toutes parts, je fais des synthèses, je fais des comptes rendus, et en même temps, j'ai envie de la confronter avec les idées des autres. Et ça me paraît hyper important. Donc le lieu autogéré de Liévin, c'est ce qui m'a amené ici, et aussi je suis dans énormément d'associations et de collectifs qui fonctionnent pas forcément sur le modèle de l'autogestion et qui bien souvent, par le fait de l'habitude et par leur historique, n'ont pas questionné leur pratique. Donc ils sont basés sur des statuts que souvent les individus découvrent quand il y a un problème ou un conflit à gérer, mais qu'ils n'ont pas travaillé eux-mêmes et sur lesquels ils se sont jamais posé aucune question. Donc en fait, ça aussi qui m'amène à ça.
Moi c'est Gaspard, du coup je suis venu un peu par... curiosité, je n'appartiens pas particulièrement à de collectifs autogestionnaires, même si la question m'intéresse. Ce matin, on a plutôt questionné collectivement la question de la définition de l'autogestion. Et pour ça, on a, après avoir fait connaissance, on a travaillé sous la forme d'un petit atelier qui s'appelle Boule de neige. L'idée, c'était... on se parlait d'abord tout seul, puis ensuite à deux, en binôme, et puis ensuite on réunissait les binômes pour quatre pour essayer de définir ce qu'on croyait être l'autogestion, avant de réunir les définitions des quatre groupes de quatre, et essayer d'aboutir collectivement à un consensus qui a pu être intéressant pour être une base, mais pas forcément avoir vocation à rendre compte de la complexité de la question dans son ensemble, mais on a eu le temps de toute façon de poser un peu les frustrations que l'exercice a pu occasionner ou non, je pense que c'était plutôt bien pour cette matinée.
Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu retiendrais comme axe fort qui pourrait définir l'autogestion ?
Alors on est forcément un peu influencé par les groupes dans lesquels on était avant. Moi je retiendrais trois axes. Je retiendrai la question du fait que c'est un collectif. Je retiendrai le fait qu'il y a des règles qui étaient mises en place par les membres de ce collectif qui fassent autorité mais qui soient évolutives. Et le troisième aspect, c'est l'égalité entre les membres qui permettent d'avoir un cadre qui permet de l'autogestion. Quoi.
Tu évoquais le fait que toi-même, tu n'es investi pas spécifiquement dans un collectif autogéré, autogestionnaire. Donc qu'est-ce qui fait que tu es présent à l'occasion de ce cycle, enfin de ces échanges? C'est une dimension purement intellectuelle ou c'est une aspiration à quelque chose comme...
Non, c'est assez pratique. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans les collectivités territoriales à mettre en place pour la gestion des ressources qui appartiennent à la communauté, des modes proches de l'autogestion, que ce soit pour les réseaux d'énergie, que ce soit pour la préservation de ressources comme une forêt. Donc c'est plus dans cette optique-là que je m'intéresse à l'autogestion. Après avoir un peu découvert la notion de commun, quoi, qui est une philosophie, enfin une manière de gérer une ressource un peu différente, mais qui du coup me force à essayer de considérer comment on gère cette ressource et donc m'interroger sur l'autogestion, qui est assez proche finalement.
Bonjour chers auditeurs. C'est Jimad à l'antenne pour vous parler de cette matinée consacrée à l'autogestion. Mais qu'est-ce que l'autogestion ? Voilà, donc on a tenté ce matin, en divisant les 16 personnes présentes, de définir individuellement, puis en petits groupes, puis de rapporter collectivement ce qu'on pouvait entendre définir par autogestion. Il s'est vu que l'autogestion était difficile à définir en soi, à savoir si on parlait d'un mode d'organisation ou bien alors d'un idéal révolutionnaire. Voilà. Et donc il y a eu quelques points d'achoppement, sachant qu'on a quand même réussi à tomber d'accord sur un ensemble de mots communs aux différentes personnes présentes. Voilà.
Alors sur la question du mode d'organisation, toi qu'est-ce que tu retiendrait en priorité ou en tendance qui pourrait définir l'autogestion ?
Alors l'autogestion sortie de son contexte et appliquée à une simple organisation ne fait pas sens dans le groupe a priori, et l'autogestion s'entend bien dans un rapport à la société, dans un rapport d'émancipation.
Peut-être, si tu es d'accord, toi qu'est-ce qui t'a amené à cette journée ? Est-ce que par ailleurs tu investis dans des collectifs militants, autogérés, autogestionnaires, bref, comment tu t'es retrouvé ici ?
Alors effectivement par le passé j'ai déjà eu différentes expériences autogestionnaires, donc dans différentes formes de groupes, depuis des groupes de joyeux saisonniers en passant par des squats artistiques, en passant par des colocations aussi, tout simplement, plus, de façon plus basique. Ce qui m'intéresse dans l'autogestion, c'est l'intelligence collective qu'on peut mettre en œuvre en définissant des règles compréhensibles, non figées, qui soient simples d'accès et qui puissent s'adapter à tout un chacun.
Et à toi, finalement, qu'est-ce que tu attends un petit peu de, à la fois de cette journée et puis de ces espèces de cycles sur l'autogestion C'est des réalisations concrètes, une mise en réseau, la constitution d'une force.
Un peu tout ça à la fois, c'est nourrir ma réflexion sur les projets à venir. Moi, j'envisage de partir dans le sud, là, sur un projet d'éco-village, sur un grand domaine de 40 hectares, où il y a des terrasses, du bois, une rivière, du bâti. Où tout est à faire. Et je viens ici pour questionner mes pratiques passées et à venir.
Donc, moi, je m'appelle Marie. Je suis venue parce que d'abord, je m'intéresse à l'autogestion. Par rapport au lien que moi j'en fais avec l'éducation populaire, avec les démarches que j'essaye de mettre en place avec l'éducation populaire. Et puis aussi parce que je travaille dans une structure qui s'appelle la plateforme des soutiens aux migrants. On a toute une réflexion sur comment transformer en fait notre organisation interne. Et donc voilà, essayer de les rendre les plus horizontales possibles, pourquoi pas tendre vers l'autogestion, même si ce n'est pas encore un terme qu'on s'est approprié. Donc je suis venue déjà à la première journée de lancement de la réflexion et c'était vraiment stimulant. Il y a plein de questions que j'ai vues qui étaient partagées par d'autres et du coup le déroulement de la journée était vraiment très chouette ce matin. C'était vraiment le retour sur plutôt sur la forme d'une définition en fait, ou d'essayer de se mettre d'accord sur une définition. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir un peu comment on était capable de la définir en tant que méthode, forme d'organisation. Et en même temps, j'ai été très questionnée par toute la discussion qu'on a eue sur est-ce que cette méthode et cette forme d'organisation, elle est détachable ou non de l'idéal autogestionnaire qu'on pourrait mettre derrière. Et à quel moment en fait cet idéal il détermine pas justement ce que font les méthodes ou ce que produisent les formes d'organisation et inversement. Donc ça c'était très stimulant, ça me pose encore plein de questions. Et donc cet après-midi on a plus glissé vers des ateliers qui se voulaient plus pratiques en fait pour réfléchir à l'autogestion au quotidien par rapport aux questionnements qu'on avait. Et moi j'ai été plus particulièrement présente sur un atelier qui posait la question des rapports de domination en fait. Comment on fait dans un collectif qu'on souhaite autogérer lutter contre les rapports de domination et tendre le plus possible vers l'égalité.
Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
C'était une participation tournante, on a été plusieurs à y réfléchir et effectivement il y a eu plein de choses de nommer, notamment l'importance d'avoir un cadre et des règles clairement et collectivement définies. Après il y a eu toute une discussion au sein du groupe sur à quel point ce cadre il doit être rigide, contraignant ou pas. Ce qui en ressortait, c'était qu'effectivement, on avait besoin d'un cadre rigide pour qu'il n'y ait pas d'aménagement trop facile ou qu'on n'abandonne pas le cadre pour selon la volonté d'une personne ou d'une autre. Et que ce qui avait été décidé collectivement pour lutter contre les discriminations, alors qu'il pouvait être par exemple... nous, on a beaucoup parlé par exemple du partage de la parole, notamment au sein des instances, du partage des responsabilités, du partage de la représentation, de la sous-représentation de certaines personnes au niveau des espaces de décision. Et donc ce cadre-là, il ne devait pas être contourné ou abandonné quand ça arrangeait certaines personnes. Et en même temps que ce cadre avait vocation à être évolutif, parce que l'idée c'était qu'on devait l'adapter si on le décidait collectivement. Donc il y a eu toutes ces réflexions-là. Il y a eu toute une réflexion sur comment est-ce que aussi ce cadre qui se veut donc relativement rigide quand même, n'empêche pas les personnes par exemple qui ont des compétences spécifiques et donc qui en retirait un certain pouvoir, ou qui ont une connaissance de l'histoire du collectif, par exemple, et qui en retirait un certain pouvoir, mais n'empêche pas ces personnes-là de transmettre, et qu'au contraire, c'est important d'organiser la transmission des compétences, la transmission des connaissances, de l'histoire, pour qu'elles soient davantage partagées et qu'elles profitent à l'ensemble du collectif.
Alors, est-ce qu'il y a des, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des trucs et astuces, je ne sais pas quel est le bon terme, par exemple pour la place des femmes, la place des personnes racisées?
Ben, on a parlé effectivement de trucs, d'outils un peu qui pouvaient exister, soit dans des collectifs qu'on connaissait, soit d'autres exemples peut-être plus éloignés d'ailleurs, notamment des choses très simples comme dans la prise de parole, ben, donner la priorité aux personnes qui interviennent pour la première fois par rapport à d'autres qui seraient déjà intervenus à plusieurs reprises, ou garantir une alternance homme-femme par exemple. On a aussi parlé de l'importance, alors quand on est une personne donc, dite dominée dans un certain rapport, donc par exemple on peut penser à des femmes racisées, c'est difficile en fait de se voir, donc la définition du cadre elle peut pas être faite par des hommes blancs qui définiraient ce dont ont besoin les femmes racisées pour se sentir bien dans le collectif. Et du coup, on a parlé de l'importance de certains espaces de non-mixité en fait, pour que effectivement bah, ce soit ces femmes-là les premières concernées par les formes de domination, qui puissent conscientiser ces formes-là et définir ensemble les règles qu'elles veulent se donner pour essayer de les neutraliser et de prendre leur place dans le collectif.
Alors, tout à l'heure, tu évoquais l'éducation populaire. Les liens forts, à tes yeux, entre éducation populaire et autogestion?
Oui, j'en vois beaucoup et souvent, je fais pas forcément la distinction d'ailleurs. Mais pour moi, ce qui questionne en tout cas l'autogestion, mais je pense que ça, c'est parfaitement compatible, c'est la place des premiers et premières concernées, justement. Donc, c'est les personnes qui sont concernées par une situation d'injustice, par une situation d'inégalité, ou qui doivent être celles qui conscientisent ce problème-là, posent des termes dessus, définissent la solution apportée, définissent le mode d'action pour apporter la solution. Donc ça, je pense que c'est des choses qui doivent être présentes et favorisées le plus possible dans nos collectifs. Et quand c'est pas, sinon ça questionne aussi des positions quand nous, on n'est pas concernés directement, de bien se définir en tant que soutien, et donc de bien penser aussi de cette position-là, de soutien, d'allié à différentes causes. Qu'est-ce que je fais comme lien autrement? De la même façon, vraiment l'idée d'être très conscient de ces rapports de domination, et de porter attention et d'essayer de lutter de manière constante contre ces différentes formes de domination qui s'expriment.
Une toute dernière question. Pour toi, la suite, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce que tu apprécierais au sein de ce groupe ou soit dans ta pratique?
Bonne question. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'avais l'impression que ça a été une journée extrêmement dense et que c'est un peu dur à la fin de la journée de voir quel fil on a envie de dérouler plus qu'un autre ou comment détacher en fait tous ces fils qui sont entremêlés dans la journée. C'est sûr que moi, en tout cas, ce temps de discussion, on se retrouve ensemble, venant de différents horizons, mais tendant vers une définition commune, hein, puisque c'est un peu le travail qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que j'aimerais que ces temps-là se poursuivent. Il y a aussi une suggestion qui me paraissait vraiment intéressante, c'est de vraiment se remettre dans l'idée qu'on part pas de rien, qu'il y a des expériences qui sont autogestionnaires dans l'histoire et dans différents espaces, peut-être aussi sortir du seul espace français ou européen. Et aller voir ce qui se passe ailleurs, justement. Donc ça, j'aimerais bien. Et dans mes propres organisations, c'est sûr que pour moi, c'est des choses qui m'amènent à réfléchir à comment mieux gérer et comment repenser un peu les outils qu'on essaye de se donner. Parce qu'on est dans ce processus-là, nous, dans le cadre de mon association. Donc aller enrichir aussi les pratiques de mon asso, si possible, avec ça.
Voilà, c'était donc sur le vif le retour de quelques participantes et participants à la Bourse du Travail de Lille sur le thème de l'autogestion. D'ores et déjà, rendez-vous est pris le 21 septembre au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, de 10h à 17h. Cette troisième rencontre est ouverte à toutes celles et ceux que l'autogestion concerne ou qui s'interrogent. Ces rencontres, ces échanges de pratiques, ces questionnements pourrait déboucher sur la mise en œuvre d'un réseau régional de praticiens et de promoteurs de l'autogestion, avec la perspective d'initiatives publiques ouvertes à toutes et tous. Nous aurons sans aucun doute l'occasion d'y revenir. Ce reportage était entrecoupé de musique libre, comme toujours sur Micro Rebelle. Il s'agissait du groupe toulousain Bruit qui court, au travers du morceau « Ne baisse pas les yeux ». Bruit qui court, c'est un groupe libertaire prônant l'insoumission et le réveil des consciences,
avec des textes scandés, vociférés, dont la puissance a à voir avec une ponctuation musicale riche et bien dosée. On va donc écouter en intégralité « Ne baisse pas les yeux ». Pourquoi « Ne baisse pas les yeux » ? Parce que baisser les yeux, c'est perdre, nous dit la chanson. Il y a peut-être bien un rapport avec l'autogestion. Merci d'écouter Micro Rebelle. Bye bye, portez-vous bien.
Qui brûle tes entrailles, te rappelle pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu refuses leur confort, pourquoi tu refuses leur routine, pourquoi tu refuses de devenir l'ombre qu'ils rêvent de te voir devenir. Pourquoi tu refuses de disparaître dans leur choix de vie, la voie toute tracée qui ne demande en échange que l'abandon de cette urgence qui brûle tes entrailles. L'abandon de cette urgence, l'abandon de cette urgence, cette urgence.
Alors regarde-moi, ne baisse pas les yeux, non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux, c'est perdre, et j'ai trop perdu. Alors regarde-moi, ne baisse pas les yeux, non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux, c'est perdre, et j'ai trop perdu.
Alors regarde-moi, ne baisse pas les yeux, non. Regarde-moi. Regarde-moi. Comme une solution, comme l'urgence qui brûle tes entrailles, te rappelle pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu passes ton temps à filer des coups de pompe dans toutes les portes du monde, à la recherche d'un nouvel horizon, à la recherche de cette lumière, à la recherche de cette seconde qui te hurle à la gueule que tu existes. Cette seconde absolue, définitive, qui ne demande rien en échange. Cette seconde ne demande rien. Cette seconde ne demande rien. Cette seconde. Regarde-moi, ne baisse pas les yeux, non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux, c'est perdre, et j'ai trop perdu. Alors regarde-moi, ne baisse pas les yeux, non, ne baisse pas les yeux. Baisser les yeux, c'est perdre.